Cette photo-là, oui, elle est magnifique, oui. Elle doit avoir dans les 16 ans, oui. Ouais. Ouais, elle est belle, cette photo.
Son regard est vraiment intense.
Oui, c'est vrai. Elle a un regard intense. Oui. Elle ressemble beaucoup à sa mère aussi. Hein. Flore, qui était une très jolie femme. Oui, elle a un regard intense. Hein. Et elle a des yeux, enfin, vert jaune.
La première fois où j'ai vu une photo d'elle, où évidemment, comme tout le monde, je m'étais dit qu'elle était superbe.
Ma petite fille irait grave. Elle était grave belle.
Suzanne Césaire, 1915-1966, intellectuelle radicale.
C'était quelqu'un de libre et qui voulait transmettre justement un certain nombre d'idées, mais elle ne s'imposait pas comme étant un chef de file, d'écriture, de modèle à prendre, non.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette rencontre littéraire que vous avez eue avec Suzanne Césaire? Parce qu'on connaît très bien la rencontre littéraire que vous avez eue avec Aimé Césaire, un peu moins avec Suzanne Césaire.
Ça remonte aux études.
On parle de quelle année, là, pour qu'on se situe bien, à peu près?
Alors,
quelle période?
On est venu en France en 1960. 7 enfants, papa, maman, grand-mère, d'un petit appartement du 20e.
Daniel Maximin.
Et c'était pour
écrivain.
L'éducation et la culture. Il n'y avait pas de fac à l'époque chez nous. Et c'est pour ça qu'on était dans ce petit appartement, avec les lycées à côté. Et puis ensuite, bon, les études, la Sorbonne. Bon. Dès que j'étais à la Sorbonne, je disais... Il suffit de se laisser descendre. On arrive rue des écoles et on arrive à présence africaine, c'est-à-dire la Sorbonne du tiers-monde.
La librairie.
La librairie, présence africaine, 25 rue des écoles, elle est toujours là. C'est un lieu de patrimoine, un lieu de mémoire, comme dirait Nora. Et les gens qui sont là, c'était toute la littérature à Paris de ce monde francophone.
Et c'est à cette période-là que vous rencontrez Aimé Césaire?
Mais oui, je regardais les poèmes, Cahiers de retour, Black Label, Damas, Guy Tyrolien, Bal d'Or. Et donc je vois Aimé Césaire à la librairie. Je lui dis, Monsieur Césaire, je voudrais étudier pour mon diplôme, pour un chapitre, la revue Tropique. Oh là là, mon pauvre ami, mais il n'y a qu'une personne qui pourrait avoir ça à Paris. C'est Damas, parce que chez lui, tout rentre et rien ne sort. Je décris la scène exacte dont je me souviens, dans le détail, tout rentre et rien ne sort. Et donc j'ai passé un mois chez Damas en venant. Il faisait à manger à midi, parce qu'il était bon cuisinier, et il m'a donné les numéros de Tropique, et je tournais les pages, et je copiais. À la main, pas de machine à écrire, rien. Je copiais les passages de Tropique. Donc j'ouvre le premier numéro et là je découvre le premier article, Suzanne Césaire. Et je dis, mais c'est formidable, c'est qui? Et c'est comme ça qu'il y a eu ce premier choc de Suzanne Césaire.
Je suis plutôt contente que l'on pense à Suzanne Césaire. Ça a pris un temps très long.
Michel,
en fait.
Césaire, et dramaturge.
Et maintenant, enfin, voilà, les choses sont dites, on relit ses écrits, on les commente et on lui fait la lumière.
Fille d'Aimé.
C'est nécessaire.
Et de Suzanne Césaire.
Près de 60 ans plus tard, est-ce que ça vous étonne un peu ou pas?
Pas vraiment, parce qu'on vit quand même dans un monde où le masculin l'emporte largement sur le féminin. Donc je pense qu'on est dans un contexte où les femmes prennent place, en fait. Et c'est pour cela, c'est dans ce contexte-là, je pense, que l'on parle de nouveau de Suzanne. Enfin, que l'on parle, pourquoi de nouveau, non? Que l'on parle de Suzanne Césaire.
Née Roussy,
oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu dans quel type de famille va naître et grandir votre mère? C'est quoi à peu près la Martinique des années 1910-1920?
Donc c'est un milieu de petite bourgeoisie, quoi. C'était l'équivalent de cela. Ma grand-mère, Flore Roussy, qui était quelqu'un de très important dans la famille, Flore. C'est une institutrice, donc son mari était une espèce d'apothicaire, je crois. qui est mort très tôt, puisque, en fait, maman Flore s'est retrouvée veuve, hein, veuve avec les deux enfants. Le père de Gilles, Louis, dit Ilou, et son autre fille, Suzanne, la Suzanne chérie qu'elle adorait, et c'était à la poterie des Trois-Îlets, qui est absolument un endroit fantastique.
Alors,
Gilles Roussy.
C'est une famille de petite bourgeoisie martiniquaise.
Sculpteur.
Martiniquaise, hein, ce ne sont pas des béquets.
Neveu d'Aimé et de Suzanne Césaire.
Papa Benoît, mon grand-père, qui est décédé lorsque mon père avait eu l'âge de 8 ans. Donc Suzanne devait avoir, ils avaient 2 ans d'écart me semble-t'il, 10 ans. Avait une espèce de propriété sucrière et était herboriste, parce qu'il ne pouvait pas être pharmacien. Les études de pharmacie étant réservées aux blancs à l'époque. Et sa femme, Flore, était une des premières bachelières de la Martinique de l'époque et avait fait l'école normale et était institutrice. Et j'ai le souvenir que ma tante est née à Rue Casnègre, à la poterie des Trois-Îlets. C'est le sud de la Martinique. Mon père était ami avec Joseph Zobel, par exemple. C'est la même commune, hein. Rivière-Salée, Petit-Bourg, des Marinières, tout ça, c'est le même coin de la Martinique. Et si l'on regarde le film Rue Casnègre, c'est cette ambiance.
C'est quoi cette ambiance martiniquaise du début du XXe siècle à la Rue Casnègre?
Ah ouais, c'est l'ambiance coloniale. Et c'est l'ambiance de l'existence de ces gens qui sont au lendemain de l'abolition de l'esclavage, mais pour qui rien n'a vraiment changé.
Ah, j'essaie d'attraper les photos, je sais pas si je vais y arriver. Ouais. Ah bah voilà, effectivement. Ça fait de la matière, oui, ça, c'est sûr. Vraiment.
Alors, comment... haut à gauche, c'est qui?
Alors, c'est mon... Alors là, c'est mon... Ah oui, formidable, ouais. Ah bah oui, vous avez bien repéré. C'est mon arrière-grand-mère. C'est mon arrière-grand-mère, donc c'est la mère de maman Flore. La mère de maman Flore, eh ben, figurez-vous que j'ai lu qu'elle était, donc, 1848, qu'elle a connu, hein, elle a connu l'esclavage, c'est incroyable, c'est génial. Elle a connu l'esclavage. Cette dame-là, moi, c'est la mère de ma grand-mère, et quand j'allais la voir, maman Flore, elle ne parlait plus. Elle était dans sa chambre, elle avait son chapelet, qu'elle égrenait comme ça. Vous savez comme les Africains font, vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Et elle ne parlait plus, mais maman Flore, sa fille, donc, lui donnait à manger. Elle avait ses sorties. Elle avait sa tête, à mon avis. Hein.
Vous enlevez un peu les toiles d'araignée, là, je vois.
Oui, j'enlève un petit peu, si ça, c'est pour que vous puissiez me voir mieux.
Là, c'est une photo beaucoup plus récente.
Beaucoup plus récente, ça c'était quand... Oui, ça c'est quand, c'est quand on, il y a eu la cérémonie au Panthéon, je crois.
À 2011.
2011, oui. Alors là, bah, ah, voilà, tenez, parce qu'on parle quand même de Suzanne Césaire. Oui, là.
Tiens.
Alors, cette photo-là... Ah, et ben voici Suzy. Là, c'est la sœur de mon père, Mireille, qui n'est plus là. C'est son mari, qui était très beau d'ailleurs. Hein. Et c'est Mogé. Mais Mogé est important parce que Mogé a participé à la création de Tropique. Hein. Oui, c'est Henri Mogé. Oui. Il y avait une cohésion familiale assez forte entre ces gens-là. Hein, parce que Tati Mireille, c'est elle qui a présenté Aimé Césaire à sa femme, à Suzanne. Maman, Suzanne était sa copine. Donc tous ces gens-là se sont rencontrés, quoi.
C'était une vedette, Suzanne. C'était une beauté et c'était une puissance intellectuelle, personnelle, littéraire, d'écriture et de vie. Quand ils se sont mariés à la mairie, à question d'église, elle a voulu aller en tailleur rouge. Ce qui se fait pas.
Elle a voulu se marier en tailleur rouge.
Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il y avait une fascination pour cette femme énorme. Mais je dirais, attention, elle n'était pas seule. Parce que les sœurs Nardal, c'était ça aussi. Et d'autres encore qu'on connaît mal par... On les a oubliées. Mais les femmes avaient un rôle majeur.
Alors les sœurs Nardal, elles arrivent à Paris au tout début des années 20, en 21. Le Paris qu'elles fréquentent en arrivant, c'est le Paris noir. C'est vraiment le tumulte noir, c'est-à-dire que Paris est en pleine ébullition. Et donc ces années folles, ces années où on veut oublier les horreurs de la guerre, c'est aussi des années où on s'est entiché de tout ce qui est noir, de tout ce qui a trait de près ou de loin à une culture réelle ou fantasmée qui serait donc une culture noire. Et donc elles sont émerveillées par ces personnalités qu'elles rencontrent, qui sont certains des soldats qui sont venus faire la Première Guerre mondiale et puis qui sont pas repartis, et d'autres des artistes qui fuient la ségrégation et donc qui sont plus libres à Paris. Et donc du coup elles découvrent aussi la culture noire américaine, et elles découvrent au contact de ces personnalités qui a peut-être une expérience commune dans le fait d'être noire. Elles invitent les étudiants qu'elles fréquentent, leurs amis, puis tous ces gens invitent aussi d'autres gens qui sont de passage, et c'est un peu à cette occasion du coup qu'Aimé Césaire vient à Clamart, puisque lui a fait la rencontre des Léopold Sédar Senghor, avec qui il est en prépa à Louis le Grand, que Senghor fréquente le salon des sœurs Nardal, et que c'est Senghor qui l'y amène.
Léa Mormin-Chauvac, journaliste.
En favorisant ces échanges, ils ont aidé l'idée de négritude à éclore, notamment parce que Jeanne Nardal, en 1928, elle fait paraître un article qui s'appelle L'International noir dans la Dépêche africaine. Et dans cet article, elle rappelle, selon elle, l'intérêt pour les Noirs du monde entier de s'unir. Elle rappelle aussi leurs origines communes africaines. Et Aimé Césaire, en 1935, quand il pose le mot négritude, il exhorte lui aussi ses semblables, ses camarades, plus particulièrement les étudiants martiniquais, à revenir vers leurs racines africaines, à les affirmer et à trouver une fierté. C'est exactement ce qu'enjoignent les sœurs Nardal depuis presque une décennie. Et donc, il semble évident que ces idées, si elles les ont écrites, elles les ont évoquées dans leur salon, et que ça a été des choses qui ont pu être entendues et débattues par ceux qui deviendront ensuite les promoteurs de la négritude, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Je ne sais pas si elles ont rencontré Suzanne Césaire à cette époque. Moi, je n'ai pas retrouvé de traces de leur rencontre. Je pense que même si elles se sont croisées, elles n'étaient pas du tout alignées intellectuellement. Et puis Suzanne Césaire affirme très tôt son anticolonialisme. Et chez les Nardal, il n'y a pas de revendication anticolonialiste. Elles sont vraiment pro-assimilation très tôt. Et donc, du coup, je pense qu'il n'y avait pas de complicité intellectuelle possible entre elles et Suzanne Césaire. Ce que je sais, c'est que par contre, Aimé Césaire ne manquera pas de souligner le côté, ce qu'il disait lui, salonard des Nardal. Et donc voilà, il trouve que c'est un salon bourgeois, avec des idées un peu poussiéreuses. Et finalement, il en dira peu de choses positives.
Suzanne et Aimé Césaire se marient en 1937. Suzanne a 22 ans. Aimé 24.
Il faut imaginer ces petits Antillais enfermés dans leurs Antilles et qui découvrent le monde, et en plus qu'ils font partie de ce monde-là. Mais c'est un peu trop parfois. Il y a eu des idées suicidaires, même, sans qu'on puisse préciser, chez Senghor, Damas et Césaire.
Et on dit même que Suzanne Césaire l'a aidé aussi à passer cette dépression.
Mais oui, tout à fait. Et ce n'est pas simplement une dépression personnelle. C'est identitaire, c'est anthropologique. Mais nous, on est quoi ?
Existentiel.
Mais oui. Et elle avait une force, une puissance de son identité et de l'identité antillaise qu'elle a fait passer aux autres, qui étaient eux plus d'un questionnement, d'un doute. Eh bien, elle leur a dit, et ça, c'est dans ses écrits qu'on l'a revu après, notamment Le Grand Camouflage, ou bien Qu'est-ce que l'Antillais ? Elle l'écrit. Eh bien, elle leur a dit, vous savez, ne cherchez pas à être comme les Européens, c'est-à-dire les racines bien enfoncées, un tronc énorme, c'est-à-dire des arbres. Tout repose sur cette image. Elle leur a dit, et c'est elle qui a fait passer cette idée, nous sommes des plantes.
qu'est-ce que le Martiniquais ? L'homme plante. Comme elle, abandon au rythme de la vie universelle. Point d'effort pour dominer la nature. Médiocre agriculteur, peut-être. Je ne dis pas qu'il fait pousser la plante. Je dis qu'il pousse, qu'il vit en plante. Son indolence, celle du végétal. Ne dites pas « il est paresseux », dites « il végète ». Et vous serez doublement dans la vérité. Son mot préféré, « laisser porter ». Entendez qu'il se laisse porter par la vie, docile, léger, non appuyé, non rebellé, amicalement, amoureusement. Opiniâtre d'ailleurs, comme seule la plante sait l'être. Indépendant. Indépendance, autonomie de la plante. Abandon à soi, aux saisons, à la lune, aux jours plus ou moins longs. Cueillette. Et toujours et partout, dans les moindres représentations, prima de la plante piétinée mais vivace, morte mais renaissante, la plante libre, silencieuse et fière. Ouvrez les yeux, un enfant naît. À quel dieu le confier ? Au dieu arbre, cocotier ou bananier, parmi les racines duquel on enterre le placenta. Ouvrez les oreilles. Un des contes populaires du folklore martiniquais, l'herbe qui pousse sur la tombe est la vivante chevelure de la morte qui proteste contre la mort. Toujours le même symbole, la plante.
Malaise d'une civilisation, tropique numéro 5, avril 1942.
On prend, pour comprendre en un mot, le chêne et le roseau. C'est exactement ça. C'est-à-dire celui qui plie mais ne rompt pas, celui qui est sensible à l'air, qui plie quand il y a le vent, voilà, et qui donne, par exemple, la canne à sucre, c'est-à-dire le fruit, quelque chose de fort, mais on prend un coutelas et on coupe la canne. Et il y a une autre qui vient. Il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas d'hérédité. Et elle leur dit, mais nous c'est ça.
En 1939, la guerre éclate. La famille Césaire quitte la France, direction la Martinique. Aimé est prof au lycée Schœlcher. Suzanne, dans un lycée technique. Le régime de Vichy est aussi appliqué aux Antilles. C'est le temps de la résistance. Avec un groupe d'amis profs, il crée la revue Tropique qui paraît de 1941 à 1945.
La préface commune qui a tant frappé Breton disait... Avril 41, le malheur gagne, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre, et le monde a besoin de nous aussi. C'est un collectif tropique, un groupe de 5 profs du lycée là-bas, qui sont des copains, ou même des parents. Mogé, c'était le beau-frère, Césaire et Suzanne, c'était un couple. Et puis...
Ménil,
très important, qui était avec sa femme. Ils étaient tous rentrés, notamment à cause de la guerre. Et là, ils étaient enfermés. Et Suzanne, c'est elle qui portait à la censure les numéros, où on enlevait le tiers des articles qui n'allaient pas. Nous, on a le résultat, mais on n'a pas les articles censurés. Et quand il y a eu l'interdiction avec une fameuse lettre du censeur un peu violente et forte, j'interdis, tropique, donc, et tout ça, c'est elle qui a fait la réponse, et qui était une réponse violente, terrible. Suzanne était l'âme de Tropique. On n'oublie pas qu'on est sous l'occupation pétainiste fasciste.
Fort de France, le 12 mai 1943. À monsieur le lieutenant de vaisseau Bayle. Monsieur, nous avons reçu votre réquisitoire contre Tropique. Raciste, sectaire, révolutionnaire, ingrat et traître à la patrie, empoisonneur d'âme. Aucune de ces épithètes ne nous répugne essentiellement. Empoisonneur d'âme, comme Racine, au dire des messieurs de Port-Royal. Ingrat et traître à notre si bonne patrie, comme Zola, au dire de la presse réactionnaire. Révolutionnaire, comme l'Hugo des Châtiments. Sectaire, passionnément, comme Rimbaud et Lautréamont. Raciste, oui. Du racisme de Toussaint Louverture, de Claude Maquet et de Langston Hughes. Contre celui de Drummond et de Hitler. Pour ce qui est du reste, n'attendez de nous ni plaidoyer, ni vaine récrimination, ni discussion même. Nous ne parlons pas le même langage.
Avec des gens qui prennent tous les risques, ils sont pro-folies, donc ils sont visibles. Il y a la jeunesse qui les suit, qui est avec eux. Par exemple, un petit jeune homme qui était trop petit pour être dans la terminale de Césaire, donc il n'a jamais été élève de Césaire, c'est Franz Fanon. Mais Fanon avait des grands frères, et les grands frères donnaient les leçons de Césaire. Et ces leçons, c'était ce qu'il y a d'anthropique. Parce qu'il faisait ça aussi pour donner aux élèves qui étaient enfermés. On avait son bac, il n'était pas question de partir en France pour les études. De 40 à 46, ça fait du monde, et ça fait du temps. Donc c'était une espèce de prépa pour pouvoir garder ces jeunes. Et leur, c'est absolument important.
À la Libération, Suzanne pousse Aimé à entrer en politique. La famille s'installe en région parisienne de nouveau. Aimé défend à l'Assemblée nationale la loi sur la départementalisation de la Martinique, quand Suzanne reprend son rôle de prof, tout en élevant leurs 6 enfants.
Je crois qu'ils ont été vraiment un couple politiquement fusionnel. Quand même, discours sur le colonialisme, c'est d'une radicalité quand même extrême, vraiment extrême, et d'une violence, enfin bon, c'est formidable. Et je suis tout à fait étonné quand je relis encore la réponse que ma mère fait au commandant, je crois qu'il s'appelle Bell, un nom comme ça, quand il interdit Tropique, mais c'est magnifique, d'un dédain, d'un mépris, d'une force, c'est formidable. C'est aussi violent qu'un discours sur le colonialisme. Ce n'est pas une arrogance injustifiée, c'est simplement savoir se situer. Nous ne sommes pas du même monde, quoi. Si vous nous rejetez, moi aussi je vous rejette. Et je pense que ça était une leçon d'éducation qui a été très présente depuis le début de mon enfance. Et aussi bien par mon père que par ma mère. Et par ma mère, très précisément, quand je suis rentrée... école primaire, donc école communale. Et là, j'étais en France, parce qu'on faisait beaucoup d'allers-retours, en fait. Il y avait 3 ans en Martinique, 3 ans en France, on revenait, enfin bon. C'était comme ça. C'était pas mal, d'ailleurs, d'avoir ça, finalement. Mais quand j'ai été à l'école en France, mais je me retrouvais dans un environnement, en tout cas, de petits Français, bien comme il fallait, et qui connaissaient pas grand-chose, et c'était, oh, la négresse, hein, bon. Et elle m'avait tout de suite averti, hein. Et elle m'avait dit, alors... Là, elle était radicale, elle m'avait dit, écoute, si on t'embête, si on te dit ça, ben, tu te donnes une gifle. Et puis c'est tout. Donc voilà, donc la réponse était très claire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Et là, on m'a respecté. Parce que quand tu as 6 gosses autour de vous qui font la ronde en disant, oh, la négresse, une négresse qui buvait du lait. Enfin bon, bref, c'est difficile pour les enfants. Les enfants sont durs entre eux, hein. Et j'ai dû me défendre aussi, et elle m'a défendu aussi, même auprès de, c'est pas seulement les petits, hein. Le racisme primaire, le racisme du quotidien était bel et bien là, donc dans cette école-là, je me souviens. Et même la directrice de l'école, quand ma mère m'a inscrite donc à l'école, la directrice d'office voulait me faire aller dans une classe plus basse. C'est incroyable, hein. Comme j'étais noire et venant de la Martinique, la directrice pensait que pour que je sois au niveau, il fallait que j'aille dans la classe inférieure. Eh ben non, donc ma mère a refusé, mais fermement. Donc j'ai été dans cette classe-là et j'ai eu le tableau d'honneur au grand dépit de la directrice. Donc c'était une petite victoire. Entre nous, ma mère et moi, on a bien rigolé. J'étais petite, voilà.
Et vous viviez le racisme, ou du moins peut-être aussi avec vos frères et sœurs aussi, malgré le fait d'être fille de députée.
Ah ben oui, puis de toute façon, on ne disait pas on est fille de député. Et puis bon, puis pour nous, c'était vraiment un métier comme un autre. Hein. Franchement, oui. Il n'y a jamais, il y a pas du tout eu ce sentiment-là d'être d'un milieu aisé. Mais d'abord, vous savez, député communiste, ils donnent la moitié de leur salaire ouais. Au parti. Enfin bon, je veux dire, on était six gosses. Enfin, on était à la porte de Brancion, on était dans un immeuble HLM. Hein. C'était très bien d'ailleurs. Hein. Il était très bien. On s'est bien amusé. On a d'excellents souvenirs de cette période-là. Mais il y a une partie importante au Petit Clamart. Et c'est à cette époque-là que Maman Flore, la mère de Maman, est venue l'aider. Parce que c'était... il y avait trop de choses à faire, quoi. Elle ne pouvait pas gérer. Maman Suzy, toute seule, ne pouvait pas gérer. On était déjà six, là. Là, on était six.
Ce que beaucoup ne relèvent pas, je trouve, c'est qu'au moment où elle est notamment très engagée dans la revue Tropique, en fait, elle est enceinte. Elle est enceinte au début des années 40 aussi.
C'est vrai, on ne le dit pas. Ouais, ouais. Donc en fait, quand je nais, Tropique, c'est terminé. Voilà, parce que je suis née en 1951.
Et vous êtes née en France hexagonale?
Ah non, moi je suis née en Martinique, à Desrochers. J'en suis très fière. Par contre, ceux qui sont nés en France, ce sont les premiers. C'est Jacques, et je pense que Jean-Paul est né en France. Pour Francis, je ne sais plus. Ils sont nés en France et ils ont même été en pension. Parce que c'était... Il n'y avait pas de place, quoi. Ils étaient étudiants encore. Hein. Les parents habitaient rue de l'Odéon. Je me rappelle bien de cela, parce que mon père m'emmenait plus tard manger. Il y avait une pâtisserie qu'on aimait beaucoup, qui était polonaise, qui était rue de l'Odéon. Et il me disait, tu vois, c'est là que, avec ta maman, on habitait dans ce coin-là.
Et pourquoi le Petit Clamart, c'était important?
Ah ben c'était important parce que c'était d'abord une espèce de communauté, enfin communauté, c'était plusieurs villas, enfin plusieurs maisons qui étaient installées dans un grand parc avec des gens, je pense, qui étaient de la même famille politique. Et ce parc était génial, absolument génial, avec des enfants forcément, puisque les parents avaient des enfants et tous les gosses se retrouvaient quoi pour jouer, pour faire ceci, cela, enfin...
Alors, effectivement, ça a été une vie extraordinaire parce que on jouait, on faisait des bêtises ensemble, avec, pour autorité, la personne qui restait, Suzy. Parce que Aimé faisait les allers-retours, à l'époque, avec les avions à hélice, escale aux Açores, entre la Martinique et la France, siégeait à l'Assemblée, c'était... un personnage très important, mais très ombrageux. Alors que Suzanne était le capitaine de ce bateau ivre, un peu. C'est elle qui menait la barque, oui.
Ma mère était une enseignante, une éducatrice. Elle aimait bien guider, et je pense qu'elle recueillait bien la parole des jeunes. Elle a toujours été très sensible à cela, et puis à la transmission et à l'éducation, c'est certain. Elle a travaillé au lycée de Sèvres. Elle a travaillé aussi au collège Estienne, ça c'était dans le 13e, un très grand collège mettant d'art appliqué. Et elle était donc, je pense, professeure de français. Et c'est là que ses élèves la surnommaient la Panthère Noire. Le collège Estienne, en tout cas, était un collège assez difficile parce que ça m'avait terrifié. Elle m'avait dit qu'une fois, parce que c'était une femme, et puis une femme de couleur en plus, un jeune avait, pour l'intimider, parce qu'elle l'interrogeait et qu'il n'aimait pas du tout être interrogé par cette dame, avait planté un canif ou un couteau dans le bois de la table de son bureau, quoi. Et j'avais été complètement terrifié par cette anecdote. D'une agressivité, d'une intimidation masculine type. Mais ça, avec maman, ça n'a pas marché. Non, non. Elle n'a pas perdu, alors que ça pouvait être très impressionnant, mais elle savait garder son sang-froid. Et voilà, quoi, elle ne s'est pas laissée intimider, elle a continué à faire son travail.
Années 50, donc Césaire entre en politique. Il y a évidemment l'histoire de la départementalisation de la Martinique. Dans le documentaire de Zane Palsy, il y a plusieurs indépendantistes martiniquais qui pointent du doigt le fait qu'ils avaient une divergence d'opinion là-dessus, entre Suzanne et Aimé Césaire. Est-ce que vous pensez que ça fait notamment, parmi d'autres problèmes qui, à mon avis, nous échappent, partie de leur séparation intellectuelle ?
Pas du tout. Il y avait une solidarité très forte entre eux. Et l'image que les indépendantistes d'après peuvent avoir en disant « c'est pas bien, pourquoi il n'est pas pour l'indépendance et tout ça », et une analyse politique postérieure. Mais sur le coup de la chose, c'est quelque chose qui était une forte demande, quel que soit ce qui s'est passé après, qui était la demande d'égalité sociale et d'égalité des droits. Et Césaire l'a fait parce qu'on lui a demandé. Parce qu'on lui a demandé d'être député. On lui a demandé d'être maire. Il ne voulait pas. C'était pas
et Suzanne l'a poussé en politique, c'est ce qu'on dit.
Ah, Suzanne l'a poussé.
Pourquoi ? Oui.
Pourquoi ? Parce que... Mais parce que... Ils ont un devoir d'action, d'engagement. Ils viennent de faire la résistance. Au nom de quoi ? Ils ont risqué la prison. Ils font une revue tropique devant tout le monde. Ils vont la donner au censeur. C'est ça qu'il faut imaginer.
Il n'y avait pas de tabou avec Suzanne. Hein. Il n'y avait pas de tabou parce que je me souviens qu'elle voulait tellement que nous soyons au courant de tout et sans rien nous cacher. Un moment cinématographique était terrible pour moi et un moment d'éducation aussi très fort. C'est qu'elle m'a. Il y avait à la télévision, on était justement à la porte d'Ancien, il y avait un documentaire qui. Enfin, un documentaire, un film terrible, le film Nuit et brouillard. Et on disait, bon, peut-être que c'est pas la peine que Michel voit ça, etc. Elle a dit, non, il faut qu'elle voit. Ça peut recommencer. C'était avant la sixième. CM2. Oui, c'est ça. CM2. Et ça, je me souviens d'avoir vu ça. Et le cinéma, c'était important. C'était peut-être plus important. Elle m'a transmis plus le goût du cinéma que le théâtre. Mon père, ça a été le théâtre. Parce que j'ai assisté à la création de ces pièces. Mais ma mère, il y a eu des révélations cinématographiques. J'ai vu des films importants avec elle. Les Fraises Sauvages, bon, oui. J'ai vu aussi des films, toujours, de révolutionnaires. Zapata, oui, j'ai vu ça. Hitchcock, elle aimait beaucoup Hitchcock. On était quand même à une période à Paris où il y avait ça, et puis il y avait aussi la guerre d'Algérie. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est tout ça se confondait, enfin, comme dans ses peurs. Parce que mon frère Francis, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, enfin, je trouve, à Frantz Fanon, c'est lui qu'on a dû jouer Frantz Fanon, le film qui vient de sortir. Eh bien, on le prenait pour un Algérien. Je dis qu'il y avait tous les types de la famille. Et la grande angoisse de ma mère, c'était que lorsqu'il sortait, qu'il ne revienne pas, qu'il se fasse rafler. Parce qu'on raflait, il y avait des rafles. Il ressemblait vraiment à... Il avait le type...
Vous vous souvenez de ça encore de ces...
Ah oui, ça je me souviens.
La présence policière.
Je me souviens de... Enfin, surtout de l'inquiétude de ma mère, regardant l'heure et disant « Francis n'est pas rentré, Francis n'est pas rentré ». Elle avait peur des rafles.
Le couple fréquente des intellectuels comme André Breton, Picasso, Michel et Louise Léris. Michel est anthropologue, Louise galeriste et fille du marchand d'art Kahnweiler. Mais aussi des gens de théâtre comme Jean-Marie Serrault, qui mettra en scène la pièce d'Aimé, La tragédie du roi Christophe. C'est à cette époque, au début des années 60, que Suzanne quitte Aimé et s'installe dans un studio dans le 14e arrondissement de Paris. Vous la décrivez comme une féministe dans ce qu'elle a fait, dans ses écrits.
Absolument, dans... elle s'est imposée. Je vous dis, revenons toujours à sa réponse au commandant Bale de Tropique. Non, je trouve que c'est un acte féministe fondateur. Et puis sa vie est un exemple de féminisme. Le féminisme, ce n'est pas l'arrogance, hein, c'est faire valoir ses droits. C'est tout. Exister, avoir le droit d'exister, c'est quand même la moindre des choses. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait et c'est dans une société où c'était difficile. Hein. Moi, je me souviens d'un voyage avec ma mère. On était, je partais seul avec elle. On était à Orly et on lui interdisait de prendre l'avion avec moi parce qu'il n'y avait pas d'autorisation parentale. Mais oui, vous êtes jeune, vous vous rendez pas compte, mais c'est incroyable. C'est insensé, mais c'est ça. Et à l'époque, eh ben, écoutez, on allait voir ma grand-mère à la Martinique. Donc ça, c'était... Ça devait être dans les années, à mon avis, dans les années 60. Et ma mère a pu téléphoner à mon père, qui était là, et certifier qu'elle avait le droit de voyager avec moi.
Imaginez-vous un tableau dans le clair-obscur. J'ai cette image de ma tante, la cigarette à la main. C'est très important, elle fumait des cigarettes anglaises avec un goût extraordinaire. Bon, ça n'existe plus maintenant. Et elle était très... Elle avait la tête levée, elle pensait, le stylo à la main, les feuilles blanches ou les copies d'élèves, je ne sais pas. Et il y avait un grand silence et un grand respect. Bon, je ne pouvais pas soupçonner un seul instant qu'elle écrivait pour autrui. Je la voyais peut-être corriger des copies d'élèves, peut-être faire des choses qui m'échappaient, mais on était enfants. Non, je ne soupçonnais pas que ma tante était écrivaine. Non.
Ici, entre les mornes lisses de vent, fongeant libre. Un paysan qui, lui, n'a pas été saisi du tremblement de l'aventure mécanique, s'est appuyé au grand mapou qui ombrage tout un flanc du morne. Et il a senti sourdre en lui, à travers ses orteils enfoncés nus dans la boue, une lente poussée végétale. Il s'est tourné vers le soleil couchant pour savoir le temps qu'il ferait demain. Les rouges orangés lui ont indiqué que le temps de planter était proche. Son regard n'est pas seulement le reflet pacifique de la lumière, mais il s'alourdit d'impatience. C'est le la même qui soulève la terre martiniquaise. Sa terre qui ne lui appartient pas et est, cependant, sa terre. Il sait que c'est avec eux, les travailleurs, qu'est la partie liée, et non avec le béquet ou le mulâtre. Et quand, brusquement, dans la nuit caraïbe, toute pavoisée d'amour et de silence, éclate un appel de tambour, les nègres s'apprêtent à répondre aux désirs de la terre et de la danse. Mais les propriétaires s'enferment dans leur belle maison, et derrière leur toile métallique, ils sont, sous la lumière électrique, semblables à des papillons pâles, pris au piège.
Le grand camouflage, tropique numéro 13-14, 1945.
La bourgeoisie mulâtre se distingue particulièrement à Fort-de-France par sa supériorité à la fois économique, mais aussi ce statut qui n'est pas celui des autres Noirs. Ça vient sans doute du fait qu'ils ont été affranchis plus tôt, mais c'est quelque chose qui perdure, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qui plus est, au début du XXe siècle, le mulâtre, la mulâtresse, c'est un objet de désir. C'est un statut où on n'est plus libre. Il y a une expression en Martinique qu'on utilise pour décrire les enfants qui naissent et qui ont la peau plus claire. On dit qu'ils ont la peau sauvée. Donc les mulâtres, ils ont la peau sauvée. Il y a l'idée qu'ils n'auront pas à subir... le même traitement que les personnes noires de leur famille, la branche noire de leur famille, puisqu'ils sont plus clairs de peau.
Malgré son statut de mulâtresse, Suzanne Césaire a développé le concept poétique donc de la poésie cannibale, de la pensée du divers. Donc elle était anticolonialiste, anti-impérialiste. Léa Mormin-Chevac, en quoi était-elle radicale pour l'époque, malgré son statut de mulâtresse ?
Elle était radicale pour l'époque, je dirais presque grâce à son statut de mulâtresse. Justement, le fait de s'élever contre les privilèges de cette catégorie sociale, le fait d'en dénoncer les accointances, les compromissions, le fait de souligner à quel point c'est aussi parce que cette catégorie sociale existe et existait en Martinique que le système post-esclavagiste a pu perdurer, c'est d'une radicalité extrême. On pourrait dire que c'est craché dans la soupe. Je pense que c'est pas du tout le cas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On pourrait se dire qu'elle aurait pu continuer de bénéficier des privilèges qui étaient accordés aux personnes qui avaient sa couleur de peau et son statut social.
de dire et de démontrer par A plus B que ces personnes en fait reproduisent le comportement raciste et classiste du colon, ben c'est quand même une radicalité extrême.
C'est pas écrit sur notre tête d'où on vient. Enfin, sauf la couleur de peau quand même, ça c'est, on le voit quoi.
Ouais, justement, je profite de cette transition, comme on dit chez moi, une passe D concernant la couleur de peau, parce qu'il y a autour de votre mère une vraie fascination autour de sa couleur de peau, que certains décrivent comme une peau dorée, d'autres fait des poèmes sur le fait qu'elle soit chabine, mulâtresse. Est-ce que c'était quelque chose d'important au sein de votre famille, le fait qu'elle soit plus claire, parce qu'elle...
Absolument pas, absolument pas.
Elle est beaucoup plus claire que votre père.
Oui, tout à fait. Mais vous savez que dans notre famille, enfin non, vous savez pas, on n'a jamais parlé, alors c'est étonnant, on n'a jamais parlé des histoires de couleur de peau. Pas du tout. Et on ne s'est jamais posé la question de voir, ah oui, papa, il est plus noir que maman, etc. Jamais, jamais. Et elle n'a jamais parlé. Parce que nous ne vivions pas dans une famille racialisée. Enfin, j'étais très étonnée quand je suis retournée beaucoup plus tard à la Martinique, mais même très tard, hein, qu'il y avait encore cette histoire de couleur de peau, etc., etc. Jamais nous avions le sentiment que ma mère était une mulâtresse. On savait même pas ce que c'était, on s'en foutait de façon complètement. Et ça n'a jamais transpiré dans notre relation familiale. On avait vraiment des types assez différents. Mais je me suis jamais posé la question de ma couleur de peau. On me l'a fait remarquer, aussi bien les blancs que les noirs d'ailleurs. Mais moi pas, parce que on n'a pas été éduqués comme ça. Ce n'est pas un questionnement. Non, on a été éduqués comme étant des êtres humains. Et il n'y avait pas cette histoire de blanc, de noir. Non, non.
Donc le colorisme n'a jamais fait partie de votre vie.
Non. Jamais. Vraiment jamais. Jamais. Ça, c'est... ça aurait été même... Enfin, bon... Même, enfin, je sais pas, j'aurais... Honteux. Non. Mais moi, on m'a déjà traité, je me rappelle, j'avais pas compris, de Chabine Kalazaza. Voilà. Je sais pas trop ce... Kalazaza, je sais pas trop quelle couleur c'est, mais enfin, bon... Mais c'était une... C'était très négatif, hein. Très négatif.
Moi, malade, me coucher... Bas à l'éveil, parle mon envoi, bas mon icito,
mon Dieu. Je pense que Suzanne Césaire,
Annie Dominique Curtius,
très tôt, elle a dû peut-être comprendre qu'elle ne soit écrivaine, qu'il fallait
enseignante-chercheuse
penser cette société martiniquaise autrement qu'à travers ses paradigmes. Maître, mulâtre, esclave, noir. Je crois que pour elle, il y a certainement eu des déclics. Il y a eu une position intellectuelle, intime, qui l'a orientée vers la construction de nouveaux cadres de pensée. Parce que il est vrai, donc, elle est mulâtresse, on aurait pu penser que oui, qu'elle va essayer de perpétuer un discours, disons, qui est déjà fait, qui est déjà tout prêt. Mais je pense qu'il faut quand même nuancer. Le mulâtre, il est complexe. Tous les mulâtres n'ont pas vocation à ressembler au colon, à être du côté du colon. Hein. Donc, il ne faudrait peut-être pas voir le mulâtre dans cette position rigide où nécessairement, il va y avoir un besoin de toujours se représenter vers ce côté du pouvoir colonial.
Aujourd'hui, les écrits anticoloniaux et écoféministes de Suzanne Césaire sont redécouverts, aussi bien dans des colloques universitaires caribéens que dans des clubs de lecture afroféministes. Suzanne est mise en scène au théâtre, mais aussi au cinéma sous les traits de l'actrice Zita Enro. Une école porte désormais son nom en Martinique, le collège Suzanne Roussy-Césaire.
On savait qu'elle avait des douleurs à la tête terribles. On savait qu'elle n'était pas bien. Mais on ignorait réellement, vraiment la la gravité.
Suzanne Césaire décède en 66 de cette tumeur du cerveau. Elle serait décédée donc la veille d'une intervention chirurgicale qu'elle devait subir à l'Institut MGEN, qui est un centre médico-psychiatrique en région parisienne pour le personnel de l'éducation nationale. Elle est enterrée au cimetière de Rivière-Salée, en Martinique. Et ce qui est intéressant, c'est que de parler de la mort de Suzanne Césaire a été très compliqué.
Et Aimé Césaire a refait sa vie après ?
On ne lui connaît aucune amante. Donc c'est quelqu'un qui reste aussi finalement dans une espèce de mystère.
Il y a un endroit que les Martiniquais connaissent qu'on appelle la femme couchée. C'est un paysage
montagneux, ouais.
Où on voit comme une chevelure et puis une tête et puis ensuite la poitrine et puis le reste. Et on appelle ça la femme couchée. Il aimait aller là. Mais en fait, c'est Suzanne. Vous voyez ? C'est Suzanne. Mais c'est pas quelque chose qui est dit, qui est... Parce que c'est...
Il faut le décoder, quoi.
Voilà, une espèce d'intimité. Mais quand on regarde les poèmes, vous avez une dizaine de poèmes. Et jusqu'à la fin, où on a les allusions à Suzanne Césaire. Et à la fin de sa vie, puisque vous parlez peu d'elle, même, vous savez, il y avait un tabou. Même les enfants me disaient, puisque j'avais cette relation un peu intime avec lui, mais sur la littérature, pas du tout une relation comme un enfant avec son père. Il me disait, faut pas parler de maman à papa, parce que c'est trop dur. Ah bon, bon. Et j'avais, par la connaissance d'Ina, par exemple, à quel point, quand la mère est morte, ça a été une douleur énorme. Il y a un mot que je veux dire quand même.
Ah oui, bien sûr.
Que Césaire m'a dit à la fin de sa vie, à propos du tabou et de... Il y a un moment, je lui ai dit, il faut quand même arrêter avec le silence sur Suzanne. Et moi, je te dis que il faut publier les œuvres que Suzanne a écrites dans Tropique. Et là, il m'a dit, ah oui, il devait avoir un an ou deux avant sa mort. Hein. Ah oui, il faut faire ça. Il faut que tu le fasses. Donc il m'a donné l'autorisation, en quelque sorte. J'avais pas besoin. Mais il m'a dit l'importance que ça avait pour lui à 90 ans ou plus. Il m'a dit cette phrase, je ne vais pas faire de pathos, hein, mais c'est la seule fois que j'ai vu une larme dans ses yeux. Il m'a dit, tu sais, Suzanne et moi, on respirait ensemble.
Et quels souvenirs ont les Martiniquais et les Martiniquaises gardent de Suzanne Césaire ?
Mais le souvenir de Suzanne Césaire, il n'est pas évoqué en Martinique. C'est quand même... Je pense que maintenant, nous, on fait un travail, en tout cas, quand je dis nous, je me mêle avec fierté au travail de chercheuses, d'universitaires, de militantes féministes... d'artistes qui remettent en avant les travaux de Suzanne Césaire. Mais elle est très très peu évoquée. Ces temps-ci, par exemple, je croise Suzanne Césaire parce que je travaille sur un peintre qui était étudiant de l'École des Arts Appliqués de Fort-de-France et où elle aurait enseigné. Donc parfois, ponctuellement, comme ça, on peut croiser... Mais c'est presque un fantôme, en fait. Il n'y a pas de mémoire collective de Suzanne Césaire en Martinique.
Les écrits d'Aimé vont changer au décès de Suzy. Si on analyse l'œuvre de Césaire dans son entièreté, à partir du décès de sa femme, il y a une rupture de texte. Parce que Suzy et Aimé, je ne dis pas qu'ils écrivaient ensemble, mais Suzy était sa première lectrice, Suzy était sa première critique. Et elle avait ses exigences, la belle. Et Aimé était très attentif, parce que, bien sûr, ils se sont séparés. Ils ont même divorcé. Mais Aimé était toujours amoureux de sa femme. Il reconnaissait son existence et son talent et son génie. Mais lui, il la reconnaissait. Mais il n'allait pas en faire état. Parce que c'était Aimé Césaire.
Aimé Césaire, c'est papa nous, c'est notre père, c'est le nec fondamental, comme on dit en Martinique. C'est une figure que tout le monde connaît. C'est impossible d'être martiniquais de ne pas savoir qui est Aimé Césaire. C'est l'homme politique dont on est sans doute le plus fier, c'est le poète dont on est le plus fier aussi. Je m'inclus, hein. C'est un emblème, c'est aussi un repère et c'est quelqu'un dont on ne fait toujours pas le deuil puisque sa mort a laissé un vide politique et intellectuel abyssal.
Moi, je dirais que Suzy est un très grand, un immense écrivain. Je mets le masculin dominateur, mais en même temps, bon, on n'en parlait pas parce que c'était la femme de Césaire. Et Césaire faisait de l'ombre. Il y a une chercheuse qui a écrit un livre sur cette mémoire cachée. Oui, c'est une mémoire cachée parce que c'était la femme d'Aimé. J'eût été la femme de Dupont, machin, peut-être que ça serait passé. Mais encore, j'en suis pas sûr.
Parler de Suzanne Césaire, ça voudrait dire parler de sa relation à Aimé Césaire. Et donc, ça relèverait de la vie intime d'Aimé Césaire. Et donc, en fait, finalement, c'est une forme d'atteinte à sa vie privée. En fait, on sent encore que parler de Suzanne Césaire, c'est une forme de... Comme si, en fait, lui, il était encore endeuillé. Il était encore vivant et endeuillé par la perte de sa femme. Femme qui aurait été un peu... folle. Et donc, en fait, ça serait douloureux, surtout pour lui, de l'évoquer. Moi, c'est toujours cette impression que j'ai. Comme s'il était encore là, et qu'évoquer Suzanne Césaire, ce serait remuer le couteau dans une plaie. Voilà.
Pourquoi folle ? C'est une des rumeurs qui courent en Martinique, la concernant ?
Oui. Oui, parce qu'elle l'aurait trompée. Parce qu'elle aurait poussé à bout, parce qu'il aurait souffert avec elle, parce qu'elle est belle et donc forcément dangereuse. En créole, on dit « femme, c'est serpent ». Donc les femmes, c'est des serpents. Donc en fait, finalement, Suzanne Césaire, c'est elle qui est morte. C'est elle qui est morte jeune, mais c'est elle qui aurait fait du mal à Aimé Césaire.
Je n'aime pas les faux débats contemporains qui essaient d'utiliser les choses du passé. Et Suzanne Césaire, dans tout ce qu'elle a fait, c'était Suzanne Césaire, dans ses écrits, dans ce qu'elle est. Parce que elle, c'est son choix. Elle en parle beaucoup. C'est une époque. C'est comme ça. Et elle était assez libre. La preuve, c'est qu'elle a divorcé. Césaire était effondré. Hein, il a tout fait pour qu'elle revienne. Elle est partie pour vivre, pour trouver même d'autres amours. Elle a eu un grand amour après. C'est quelqu'un qui a des grands amours.
Un galeriste, oui.
Oui. Donc ça montre bien sa personnalité. Et donc, c'est une femme libre. Et cette femme libre s'appelle Suzanne Césaire. Alors qu'on puisse chercher son nom de jeune fille et le rajouter. Mais j'ai vu un moment, dans un groupe en Martinique, on disait Suzanne Roussy. Alors là, c'est qui ? Il y a quelque chose ? C'est vouloir, toujours dans une espèce de revanche, éradiquer le lien avec Aimé Césaire pour mettre en valeur le seul lien d'elle. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est le rôle, y compris majeur, auprès d'Aimé Césaire. La réalité, c'est le rôle qu'ils ont eu à deux, et même à 4-5 dans Tropique. C'est comme si dans Tropique, on disait on va enlever les hommes pour ne parler que de Lucie Thésée et Suzanne Césaire. Ou bien qu'on va enlever les femmes, parce qu'elles sont des muses, ça compte pas, c'est que Césaire et Ménil qui comptent. Quand Le Seuil a vu les écrits, 7 articles, c'est tout, hein. Je veux dire ça aux auditeurs, 7 articles qu'elle a écrits, c'est tout. Et une pièce qu'on a perdue. Et quand il y a eu la publication, les journaux qui ont dit, mais on découvre quelqu'un. C'est pas parce que c'est la femme d'Aimé Césaire. C'est parce qu'elle est elle. La preuve, c'est qu'on dit même que ça lui nuit. de s'appeler Césaire et qu'il faut l'appeler aussi. Donc, non, c'est une chose importante et qui est le respect de Suzanne Césaire. Parce que c'est elle qui a fait ses choix. C'est elle qui a pris ses décisions. C'est elle qui s'est séparée. C'est elle qui partait pour écrire. Malheureusement, il y a eu... Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très dramatique. La tumeur au cerveau, la pire... Je dis ça, c'est la pire des maladies qui peut lui arriver à elle.
J'ai découvert assez tard les écrits de ma mère. C'est incroyable. Parce qu'elle ne la ramenait pas. Hein. Elle transmettait un certain nombre d'idées, de positionnement, d'ouverture d'esprit, mais elle ne s'imposait pas comme étant un chef de file, d'écriture, de modèle à prendre. Non, franchement, j'ai découvert ça assez tard. Et c'est dommage d'ailleurs, c'est dommage. Je pense que c'était quelqu'un de libre et qui voulait transmettre justement la liberté. C'était ça qui lui importait. Et puis elle a été prise par le temps aussi. Les parents partent toujours trop vite, hein. C'est après, on se dit, ah mince, j'ai pas pu lui poser ça comme question. Enfin, souvent, les enfants se disent ça après. C'est terrible.
Et vous auriez aimé lui poser quoi comme question?
Par rapport à son... Justement, je parle de ça par rapport à son travail d'écriture, d'écrivaine. Ah, j'aurais beaucoup aimé parler de cela avec elle. Comment elle a fait ça? Comment elle a eu l'idée, l'envie, le souffle? C'est incroyable ce qu'elle écrit. Elle écrit merveilleusement bien. C'est vraiment tout à fait dommage qu'elle se soit arrêtée. Je pense qu'elle l'a fait tout simplement pour des raisons pratiques, hein, pour des raisons pratiques de d'épuisement. Il y a des gens qui s'épuisent aussi, et ça devait être son cas parce que pour avoir fait tout ce qu'elle a fait avec cette vie familiale quand même compliquée, non, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a été, mais comme beaucoup de femmes, qui a été quand même certainement assez sacrifiée.
Merci à Michel Césaire, Gilles Roussy, Daniel Maximin, Annie-Dominique Curtius, Léa Mormin-Chauvac. Merci également à Kevin Donna, Myriam Moïse, Hassan Kouyaté et Vanessa Lee. Lecture des textes de Suzanne Césaire, Nicole Doguet. Prise de son, Alexandre James, Alexandre Dang, Jeffrey Marie-Anne, Guillaume Ledu, Cindy Le Grumelec. Merci également aux équipes de Martinique Première à Fort-de-France et aux locales d'ici Occitanie et Saint-Étienne-Loire. Mixage, Guillaume Ledu. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire d'Estelle Gianjo, réalisé par Yaël Mandelbaum. À la mémoire, Dina Césaire, dramaturge, 1942-2025.